présenté par Eve Martin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, on va parler d'un groupe qui est partout et qui a un peu explosé cette année. Et voilà, cette année, Guise. Et en deuxième partie, on parlera de la série à succès, Heated Rivalry, une série partie de rien. Et pourtant, qui est maintenant un peu au sommet. Je vous propose de démarrer cette émission en écoutant Bizarre Love Triangle de New Order.
Thank you. ce sentiment bizarre que je suis seul. Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires. Les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages. Mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde saura remplacer. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires. Les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages. De mon village sans à l'heure, où les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile.
C'était Quelques mots d'amour de Michel Berger. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous parler d'un groupe qui a littéralement explosé cette année. Un groupe qui incarne à lui seul le renouveau du rock new-yorkais Geese. Si leur nom ne vous dit pas grand chose, retenez-le bien parce que Geese, ce n'est pas seulement un groupe à suivre, c'est un groupe qui compte. Geese, c'est l'histoire de cinq amis originaires de Brooklyn, à New York City. Des amis de lycée qui, comme beaucoup, ont commencé par répéter dans des garages, enregistrer des démos, un peu bricoler et poster leur musique en ligne. Sauf que chez eux, il y avait quelque chose de différent, une sorte d'urgence, de tension, une énergie un peu chaotique mais toujours maîtrisée. Leur premier album, Projector, sorti en 2021, les a placés immédiatement dans les radars des amateurs de rock indépendant. On y retrouvait une ambiance sombre, presque dystopique, des guitares anguleuses, des rythmiques nerveuses et surtout une voix particulière, celle de leur chanteur Cameron Winter. Une voix capable de passer du murmure inquiétant au cri habité en quelques secondes. À l'époque, beaucoup les ont comparés à la scène post-punk britannique, à des groupes comme Shame ou Black Midi. Des comparaisons flatteuses, certes, mais un peu réductrices, parce que Geese ne sonne pas comme une copie, Geese sonne comme une collision. Une collision entre le groupe des années 2000, le post-punk, le glam, parfois classic rock, une collision entre chaos et groove. Et puis cette année, tout a changé. En 2023, ils sortaient un deuxième album, 3D Country. Et là, une surprise totale. Au lieu de capitaliser sur leur image post-punk sombre et nerveuse, ils prennent tout le monde à contre-pied. L'album est plus lumineux, plus extravagant, presque théâtral. Il y a des influences country, des envolées vocales à la limite du kitsch assumé, des guitares plus larges, plus flamboyantes. Le titre même, 3D Country, annonce la couleur. On n'est pas dans quelque chose de décalé, d'exagéré, presque ironique, mais derrière l'ironie, il y a une vraie maîtrise musicale. Les morceaux sont plus ambitieux, plus longs, plus structurés. Ils osent. Et c'est précisément ça qui a fait exploser le groupe en 2023, le courage artistique. À une époque où beaucoup de jeunes cherchent à affiner une formule qui marche, Guise a fait l'inverse. Ils ont cassé leur propre image, ils ont pris un risque. Et le public a suivi. Leur énergie sur scène y est aussi pour beaucoup. Parce que Guise, c'est pas seulement un groupe de studio, c'est un groupe de live. Cameron Winter, avec sa présence presque imprévisible, donne l'impression qu'il peut basculer à tout moment. Il danse, il grimace, il exagère, il théâtralise. On est parfois entre le concert de rock et la performance artistique. Et musicalement, derrière lui, le groupe est d'une précision impressionnante. Les guitares dialoguent, la batterie propulse, la basse ancre le tout et il y a une tension permanente mais jamais brouillon. Cette année, ils ont enchaîné les festivals, les tournées, les salles de plus en plus grandes. Leur nom est passé de statut de petite ligne sur l'affiche à celui d'incontournable. Leur concert au Bataclan à Paris est sold out depuis plusieurs mois. Ils ne sont plus une promesse, ils sont une réalité. Et ce qui est fascinant avec Guise, c'est qu'ils incarnent quelque chose de très générationnel. Ils ont une vingtaine d'années et pourtant ils n'essayent pas de sonner actuel au sens algorithmique du terme. Ils ne cherchent pas à faire des morceaux calibrés. Pour Internet, leur musique est dense, parfois déroutante, souvent imprévisible. Et c'est peut-être ça, justement, qui les rend si excitants dans un paysage musical parfois très formaté, qu'ils apportent du désordre, du panache, une forme de folie contrôlée. Mais attention, derrière l'énergie brute, il y a une vraie écriture. Les textes jouent avec les images, avec l'absurde, avec l'ironie. Il y a un côté presque surréaliste par moments, on ne comprend pas toujours tout immédiatement et c'est tant mieux. Leur musique demande qu'on s'y attarde. Ce succès récent ne vient donc pas de nulle part. Il est le résultat d'années de travail, d'une identité forte et surtout d'un refus de la facilité. Ils auraient pu rester dans l'esthétique sombre et post-punk de leur début. Ça aurait été plus simple, plus rassurant. Mais à la place, ils ont choisi l'évolution. Et c'est souvent le signe des groupes qui durent. Alors, est-ce que Guise est en train de devenir le nouveau grand groupe de rock américain? Il est encore trop tôt pour le dire. L'histoire du rock est remplie de groupes qui ont explosé rapidement avant de disparaître. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà réussi quelque chose d'essentiel, surprendre. Et surprendre aujourd'hui, c'est assez rare. Guise nous rappelle que le rock peut encore être imprévisible, qu'il peut déranger, amuser, étonner, et qu'il peut encore évoluer sans perdre son intensité. Si vous avez jamais écouté, commencez peut-être par leur dernier album, Getting Killed, qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois. Et puis, laissez-vous surprendre et puis revenez à Projector pour comprendre d'où ils viennent. Vous verrez le chemin parcouru. En à peine quelques années, Guise est passé du statut de groupe de lycée new-yorkais à celui de phénomène international de la scène indie. Et s'ils continuent sur cette trajectoire, on risque d'entendre leur nom encore longtemps. Parce que quand un groupe a du talent, de l'audace et de l'énergie, l'explosion n'est souvent que le début. Voici donc Getting Killed de Guise, extrait de leur album du même nom, sorti en 2025. êtes toujours dans l'amphi sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous venons d'écouter Night Club de Fonsdal et on va marquer une pause musicale après laquelle on parlera de la série phénomène Heated Rivalry. Voici Dying for You de Charlie XCX, cet extrait de son album Wuthering Heights. Je ne saurais pas le prononcer mieux que ça. La bande originale de l'adaptation des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë par Emerald Fennell et c'est actuellement au cinéma. Je pense que j'irai le voir et on en parlera prochainement. Voici donc Dying for You de Charlie XCX.
Ever since I can remember, I felt it in my bones. A tragic destiny was reserved for me all on my own. But oh, I didn't know why. Oh no, no, I didn't know. But then I saw your face and realized I was dying for you. Cause you're a gun to my head and you're a wound in my chest. Yeah, you're my favorite jewelry, worn just like a noose round my neck. I'm losing gallons of blood, the river's turning to red. I got a smile on my face, I didn't even know. All the pain and torture that I went through all makes sense to me now. I was dying for you, I was dying for you, I was dying for you. Even right at the end, I'll keep dying for you. All the pain and torture that I went through all makes sense to me now. I was dying for you, I was dying for you, I was dying for you. I'll keep dying for you, I'll keep dying for you. Ever since I can remember, I set myself on fire and lay down in the road and wait to feel the weight of the ties. But oh, I didn't know why. Oh no, no, I didn't know. But then I kissed your lips and realized I was dying for you. Cause you're the poison I drink. I drink you twice to be sure. And then I find the highest building just to fall on my sword. I'm losing gallons of blood. The river's turning to red. I got a smile on my face. I bleed even more. All the pain and torture that I went through all makes sense.
This week.
D'écouter My Moon, My Man de Feast. Et j'avais envie, donc cette chanson d'ailleurs est dans une série, et j'avais envie de vous parler de cette série, qui est une série qui prouve que même en n'étant pas trop sûr de soi et en ayant un tout petit budget, on finit par, enfin, on peut finir par tout renverser. C'est une série qui, à l'origine, n'avait ni gros budget, ni campagne marketing massive, ni star internationale, ni star tout court, en fait, à l'affiche, et qui, pourtant, a explosé les scores contre toute attente. Heated Rivalry. À la base, Heated Rivalry, c'est une adaptation d'un roman à succès, une série de romans à succès, publiée en 2019, par Rachel Reed. C'est un roman qui s'inscrit dans l'univers du hockey professionnel nord-américain, ça paye pas de mine comme ça, et qui raconte une histoire d'amour intense, secrète et explosive entre deux joueurs rivaux. Sur le papier, ce n'est pas une production taillée pour dominer les classements mondiaux, juste deux personnages, une rivalité et une tension qui monte saison après saison. Je parle du hockey pour les saisons. Et pourtant, quand la série est lancée, le budget est serré, les décors sont limités, le tournage est concentré, l'équipe technique est réduite, on mise tout sur l'écriture, la mise en scène et surtout la chimie entre les deux acteurs principaux, et ça n'a pas manqué. L'histoire tourne autour de deux joueurs de hockey, professionnels, ennemis jurés sur la glace. Leur rivalité sportive est médiatisée, commentée, amplifiée. Chaque match devient un champ de bataille symbolique, mais en coulisses, loin des caméras, une relation secrète se développe. Ce qui aurait pu être un simple drame romantique devient rapidement quelque chose de plus profond. Parce que Heated Rivalry, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une réflexion sur l'identité, sur la pression du milieu sportif, sur la masculinité, sur la peur d'être exposé dans un univers encore très codifié, et surtout du fait d'être LGBT, qu'il y a plus dans le milieu sportif. Le hockey professionnel, souvent perçu comme un bastion de virilité traditionnelle, devient ici un terrain de fragilité, de doute, d'émotion retenue. Et c'est précisément cette sincérité qui a fait basculer la série. Au départ, les attentes étaient modestes. Les premiers épisodes sont diffusés sur une plateforme de streaming secondaire. On n'était même pas sûr que ce serait autre part qu'au Canada. Finalement, ça a été acheté par HBO. Les critiques spécialisées en romance et en série LGBTQIA+, commencent à en parler, puis les réseaux sociaux s'en mêlent. Des extraits circulent, les scènes deviennent virales, les fans analysent chaque regard, chaque silence, chaque confrontation sur la glace. Et très vite, le bouche à oreille fait son travail. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'intensité, pas seulement romantique, dramatique. Chaque rencontre entre les deux personnages est chargée d'électricité. On sent la tension accumulée par des années de compétition. Parce que oui, ça dure 10 ans. On sent aussi la vulnérabilité. La série joue sur le contraste, la violence physique du sport, les corps qui se heurtent, la vitesse, le bruit, face au moment d'intimité silencieuse, presque suspendue. Et contrairement à beaucoup de productions à petit budget, Heated Rivalry ne cherche pas à cacher ses limites. Elle les transforme en force, les scènes sont plus resserrées, plus proches des visages, la caméra s'attarde sur les expressions. On est dans l'émotion brute. Puis les chiffres commencent à grimper, les audiences dépassent les prévisions, les abonnements à la plateforme augmentent, les épisodes deviennent des événements, les hashtags liés à la série montent en tendance à chaque diffusion. Il y a même des watch parties qui sont organisées. Et là, surprise générale, une série romantique centrée sur une relation queer dans le monde du hockey masculin devient un phénomène. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive à un bon moment, le public est en demande de récits plus nuancés, plus inclusifs, mais surtout plus authentiques. Et Heated Rivalry ne donne pas de leçons, elle raconte simplement une histoire humaine. La rivalité n'est qu'un prétexte scénaristique, elle est le moteur émotionnel, elle alimente la frustration, le désir, la colère. Les deux personnages ne sont pas parfaits, ils font des erreurs, ils se blessent, ils doutent. Et c'est ça qui est aussi important et qui marche. Et c'est justement cette imperfection donc qui les rend crédibles. Autre élément clé du succès, la montée en puissance progressive. La série ne cherche pas le choc immédiat, elle prend le temps de construire la relation sur plusieurs années à travers les saisons sportives, les transferts, les blessures, les conférences de presse. Le spectateur devient complice, il partage leurs secrets, il vit l'attente, il ressent la peur parfois que tout s'effondre. Ce qui était au départ presque un projet confidentiel devient symbole d'un changement dans la manière de produire et de consommer les séries, symbole aussi du pouvoir des communautés en ligne. Parce que ce sont les fans qui ont porté la série, les montages vidéo, les analyses, les fanarts, les discussions passionnées, tout cela a créé un écosystème autour de Heated Rivalry. Et face à cet engouement, les producteurs ont dû revoir leurs ambitions à la hausse, budget augmenté pour la saison suivante et même une saison suivante qui n'était pas prévue, une distribution différente, des campagnes promotionnelles beaucoup plus larges. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré ce succès, la série a gardé son ADN. Elle n'a pas cherché à devenir spectaculaire pour séduire un public plus large. Elle est restée centrée sur ses personnages. Aujourd'hui, Heated Rivalry est souvent citée comme l'exemple du parfait du succès inattendu, celui qui prouve que le public peut transformer un projet modeste en phénomène culturel. Et c'est aussi une leçon pour l'industrie. On n'a pas besoin toujours d'effets spéciaux démesurés pour captiver. Parfois, deux personnages très bien écrits, une tension crédible et une mise en scène sincère suffisent. En 5 minutes, on ne peut pas résumer toute la richesse de la série, mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est Heated Rivalry a commencé comme une petite production ambitieuse et c'est devenu une référence. Une série qui rappelle que les histoires les plus puissantes ne sont pas forcément celles qui crient le plus fort, c'est celles qui touchent juste. Et dans un paysage audiovisuel saturé de contenu, réussir à toucher juste, c'est peut-être ça la grande victoire.
Quand je fixe, j'en profite mille fois.
futur. Là, je veux bien essayer là. Guide-moi, guide-moi. On s'échange nos lumières. Là, guide-moi, guide-moi.
c'est la fin de cette émission. On vient d'écouter « Ça m'éclate les yeux » de Jim Ballon. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la playlist du mercredi dans l'amphi.